J'aimerais ouvrir la Bible avec vous pour commencer ce moment dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Nous allons lire du verset 7 au verset 13. Ne soyez pas inquiets si à des moments vous ne comprenez pas trop ce qu'il est dit. On va y venir. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant, comme du temps de David, si longtemps après, comme il est dit plus haut aussi, au chapitre 3, on retrouve aussi cette exhortation, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. J'ai mis votre parce que c'est écrit vos cœurs, mais je pense que c'est plus personnel si on dit votre cœur. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Pas entendu de amen. Ça vous fait peur? Vous avez peur. Il ne faut pas avoir peur. Le titre de ce message ce matin, c'est « N'endurcis pas ton cœur ». La parole et l'obéissance sont au cœur de ce chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. La parole d'un côté, l'obéissance de l'autre. Le verset central est certainement le verset 12, où il est dit « Ta parole est vivante et efficace, plus tranchante. » Je m'aperçois que j'ai oublié de donner le... Tu peux donner la clé. Je disais pourquoi il ne met pas le diaporama, mais je n'ai pas donné la clé, donc c'est normal. Ça va venir. Le contexte de ce passage, c'est le rappel de ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple d'Israël. Et dans cette histoire, nous notons que les Israélites étaient souvent dans cette condition d'endurcir leur cœur. Leur cœur était dur. Et toute l'histoire, si vous lisez l'Ancien Testament, le montre. Le cœur de ces hommes était dur. Bien sûr, il s'agit que du peuple d'Israël. Nous sommes différents, supérieurs et bien meilleurs, n'est-ce pas? Ça a été loin leur endurcissement, puisqu'ils ont été jusqu'à refuser de reconnaître Jésus comme le Messie. Et l'auteur nous donne cet avertissement. Il nous dit que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Ok, c'est la diapo 10, si tu veux récupérer. C'est pourquoi, dans un premier temps, j'aimerais d'abord vous encourager à ne pas endurcir votre cœur. Et on va voir pourquoi. Et puis, dans un deuxième temps, nous verrons le privilège, la chance, attention, la chance, quand je prononce le mot chance, ce n'est pas la chance qui est synonyme du hasard. C'est la chance dans le sens le privilège. La chance que nous avons d'avoir accès à la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez que des millions de gens autour de nous ne connaissent même pas le béaba de ce que disent les Écritures. Et nous, nous avons les Écritures, et parfois nous n'avons même pas besoin d'endurcir nos cœurs puisque nous ne les lisons même pas. Mais même quand nous les lisons, même quand nous entendons des prédications, nous avons tendance, et c'est la chair et c'est la nature humaine à nous endurcir. Mais grâce soit rendue à Dieu, cette parole est désignée comme une parole vivante. Comme il a été dit, elle ne retourne pas à Dieu sans effet. Amen. Jean aura une vision de Jésus dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Vous connaissez cette vision pour ceux qui connaissent la Bible. Il décrit Jésus, il dit « De sa bouche sortait une aiguille à deux tranchants, comme une épée à deux tranchants. » La parole, c'est Jésus. Jésus est la parole faite chair. Et nous croyons que Jésus est puissant, en tous les cas, son amour est puissant pour venir jusqu'à nous et nous parler, nous encourager, nous donner les directives que nous devons recevoir de sa part. Amen. La première partie nous encourage à ne pas endurcir nos cœurs, ne pas fermer nos cœurs à sa parole. Amen. Ne fermons pas, première partie, nos cœurs à sa parole. Tu peux avancer. L'auteur de l'Épître aux Hébreux n'est pas le seul à nous exhorter dans ce sens. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 19 à 21, l'apôtre Paul nous dit ceci. « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Sa parole nous a été donnée comme une parole de réconciliation. Et nous avons le choix de recevoir ou de nous endurcir. Combien de gens ont entendu le message de la bonne nouvelle? Combien parmi nous viennent dimanche après dimanche, mais ils n'ont pas ouvert leur cœur au Seigneur pour recevoir cet amour, cette parole de réconciliation? Dans le verset 12 de notre texte d'introduction, nous voyons que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Elle est comparée à une épée à double tranchant, qui est plus tranchante qu'une épée quelconque. Donc si la parole ne pénètre pas nos cœurs, c'est quoi le problème? C'est la parole le problème? Non, c'est pas la parole le problème. Et la vérité sort de la bouche des enfants, hein. Le problème, c'est nous. C'est nous. Les enfants, dites-moi, vous savez ce que c'est une épée? Les enfants, vous êtes avec moi? Emeline, tu sais ce que c'est une épée? Tu as déjà vu une épée? Et qu'est-ce qui mettait sur eux, les soldats, pour empêcher que les épées elles puissent transpercer leur corps? Ils mettaient quoi? Les enfants, hein. Une armure. Une armure empêche l'épée de pénétrer nos cœurs. On va la mettre sur les endroits où il y a les organes vitaux, où il y en a qui en avaient même jusqu'aux jambes, hein, des armures. Je sais pas comment ils faisaient pour se déplacer. Je pense à David, hein, sur qui Saül a voulu mettre son armure. Ça n'a pas trop marché. Hein. Et en fait, j'aimerais vous dire une chose. C'est que malheureusement, nous portons sur nous des armures. Des armures qui sont là et qui nous empêchent la parole de Dieu de pénétrer dans nos cœurs. On va citer quelques exemples. Vous êtes prêts? L'orgueil. L'orgueil, c'est une armure qui empêche la parole de Dieu de pénétrer nos cœurs. Moi, je vais y arriver tout seul. Moi, je peux le faire tout seul. Moi, je sais. Moi, je suis le plus fort, le meilleur. Deuxième armure qu'on peut revêtir, c'est celle du doute. Le doute qui nous envahit, l'incrédulité qui est là. Et qui dit, ok, ouais, Seigneur, tu dis ça, mais bon, j'aimerais bien le voir quand même. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on attend de la part du Seigneur et qui mettent du temps à s'accomplir. Et là, qu'est-ce qu'on vient mettre sur soi ? L'armure du doute. Et la parole ne peut plus pénétrer, donc si la parole ne pénètre plus, on perd espoir. Parce que ce qui nous donne l'espérance, ce sont ses promesses. Notre armure, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. L'égoïsme qui fait que nous ramenons tout à nous. Nous voulons tout pour nous. Moi, 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 moi. La parole de Dieu, elle a été donnée pour le révéler à lui, dans sa puissance, et révéler son fils Jésus, et pas pour dire quoi que ce soit de bon sur moi. Je sais que c'est à la mode aujourd'hui de dire « tu as un bon potentiel, tu dois avoir une belle estime de soi, tu es formidable, tu es extraordinaire ». Excusez-moi, mais c'est pas la parole de Dieu, ça. La parole de Dieu dit qu'on est misérable, on est pécheur, on est corrompu, et que seul Dieu peut faire de nous quelqu'un de valable. Amen. Ce n'est pas un discours défaitiste, hein. C'est un constat lucide. J'entendais, vous savez ce qui s'est passé à Bayonne, si vous suivez les informations, un homme qui a été tué devant chez lui, des choses tristes, et j'entendais les gens qui étaient interviewés, et les gens ils disaient, ben, ça en dit long sur la nature humaine. Ben oui. Alors que nous avons des humanistes, hein, qui vantent la nature de l'homme, que l'homme est capable au fil des siècles de s'améliorer. Alors c'est vrai qu'on s'est amélioré sur le plan scientifique, il y a plein de choses où on s'est amélioré, mais au niveau du cœur, excusez-moi, hein. Mais on est toujours au Moyen-Âge. Hein. On règle les problèmes par la violence, on ne considère pas l'intérêt de l'autre. Enfin, je ne vais pas vous faire un tableau, vous connaissez les choses mieux que moi. Une autre armure, celle de la tradition. Ah non, mais moi j'ai l'habitude de ça, moi. C'est comme ça que je fais. Ah non. Moi, mes parents, ils étaient ceci, donc moi aussi, je suis comme eux. Ils étaient catholiques, j'étais catholique. Ils étaient évangéliques, je suis évangélique. Ils étaient musulmans, j'étais musulman. Ils étaient juifs, je suis. Tout ça, Jésus est venu le balayer. Même les évangéliques, il les a balayés, hein, avec leur tradition. Il ne faut pas mettre les évangéliques au-dessus des autres religions. Hein. Une religion, c'est une religion. Hein. Nous ne prêchons pas une religion, nous prêchons une relation avec Jésus-Christ, qui est l'Éternel. Et vous verrez, vous pourrez aller dans des églises évangéliques, et même dans celles-là, et être déçu du comportement de l'homme, et de l'organisation, de la manière dont les choses sont faites. Vous serez toujours déçu, n'importe où vous irez. Celui qui ne vous décevra jamais, c'est Dieu. Amen. Les traditions, le Seigneur est venu les balayer. Il veut qu'on sorte de nos routines et que chaque jour soit un jour nouveau. Amen. Parfois, ce sont nos relations, nos boucliers. Ah, si je deviens chrétien, il va falloir que j'arrête telle relation. Ou il va falloir que je prenne, en tous les cas, de la distance. Parfois, c'est notre caractère bien français, cartésien, la science, le rationalisme. Ah non, mais c'est pas possible. Non. Bah, réfléchis un peu. Mais qu'est-ce que tu me racontes, là, ton Saint-Esprit, des nouvelles langues. Non, mais ça va pas, toi. Et tout ça, oui, c'est une armure qui est là et qui empêche. Moi, me lever pour chanter, là, moi lever les mains au dessus, ça va pas, non. Argent, matérialisme. Ça aussi, c'est un bouclier qui empêche la parole de Dieu de pénétrer. Le jeune homme riche en a fait l'expérience. La parole n'a pas été au-dessus de ses biens matériels. Et donc, elle n'a pas pu pénétrer et il est reparti tout triste. Autre armure que l'on revêt, c'est celle de la peur. Ah ok, c'est super ce que vous me dites, pasteur. Ah mais j'ai peur. Non, non, non. Vous me dites de tout abandonner. Ah non, je ne peux pas. Vous me dites, oh là, vous me dites de faire confiance à Dieu, là, mais j'ai plus rien à quoi me rattacher. Oui, mais justement, c'est là que c'est bon. Parce que tu vas expérimenter que c'est Dieu qui te tient là. Amen. Les addictions, les choses qui nous tiennent, qui nous asservissent. Je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qui peut nous asservir aujourd'hui. Il y a des choses qui se sont rajoutées. Avant, c'était la drogue, l'alcool, le tabac. Maintenant, vous avez toutes les nouvelles technologies, toutes ces choses-là. Et puis, tout ce que ça entraîne derrière, avec des choses vraiment parfois malsaines, impures, etc. Je ne vais pas plus loin, vous comprenez ce à quoi je fais allusion. Tout ça endurcit notre cœur. L'amour du monde, l'amour de tout ce que le monde nous propose, ça endurcit notre cœur. Les mensonges du diable. Vous savez comment c'est venu le premier péché, hein ? Dieu a-t-il vraiment dit ? Et Dieu nous dit, le diable nous dit des choses comme ça. Et quand il y a une prédication comme ce matin, où il y a des chants qui disent « Dieu est ta force », le diable il vous dit « Non mais les autres, oui, mais pas toi. Toi, t'es vraiment trop faible, t'es un raté, t'es une ratée, regarde ta vie. » Et on écoute. Et donc on ferme notre cœur à la parole qui nous dit que même toi qui es en échec, même toi qui es au plus bas, le Seigneur peut te relever et faire de toi un de ses serviteurs ou une de ses servantes. Amen. Je vous laisse ajouter des lignes à la liste. La Bible, c'est la parole de Dieu. On le dit, on le proclame. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez prier pour que votre cœur soit ouvert. À chaque fois que vous ouvrez votre Bible chez vous, chaque fois que vous venez dans un lieu comme ceci pour écouter la parole, chaque fois aussi que des gens autour, inspirés, remplis de l'Esprit, vous parlent, parce qu'il y a la parole de Dieu annoncée d'une manière formelle, mais il y a aussi la parole de Dieu annoncée d'une manière informelle, au travers de la bouche d'un frère, d'une sœur qui est rempli de l'Esprit et qui peut vous donner une parole à un moment. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir le choix de dire « Waouh, il me parle de la part du Seigneur » ou de dire « Hé, qui lui pour me dire ça ?» Vous n'avez jamais eu cette réaction ? Alors que le Seigneur vous envoie un frère, une sœur, vous dites, il est qui pour me dire ça ? Que le Seigneur nous aide à ne pas endurcir nos cœurs. Qu'il nous donne bien sûr le discernement, parce que parfois on peut venir nous parler, ça ne vient pas de Dieu, c'est vrai. Qu'il nous donne le discernement et que nous puissions avoir un cœur ouvert à sa parole. Amen. Vous croyez que Dieu vous parle quand vous lisez votre Bible, mes frères et sœurs ? Vous le croyez ? Alors faites-le. Faites-le, lisez la Bible le plus régulièrement possible. Et même si pendant un mois vous avez lu la Bible et que ça ne vous a pas parlé, continuez. Parce que le moment viendra où une parole va vous percuter. Et en attendant, même si ça ne vous a pas percuté, ça vous a nourri. Ça vous a nourri. Je donne souvent cette image. Est-ce que vous vous rappelez de tous les repas de la semaine dernière ? Vous en rappelez ? Vous avez ça veut dire qu'ils n'ont pas marqué. Hein. Moi, je ne sais plus ce que j'ai mangé mercredi dernier midi. Par contre, je sais ce que j'ai mangé vendredi à midi. Parce que mon épouse m'avait préparé un beau plat pour mon anniversaire. Et c'est un repas qui m'a marqué parce qu'il était inhabituel. Mais est-ce que pour autant, les autres repas de la semaine, ils ne m'ont pas nourri ? Ben si, si je n'avais pas mangé, je serais peut-être là ce matin en train de tituber, sans force. La parole nous nourrit, mes frères et sœurs. Laissons-nous nourrir de la parole. Ésaïe et comme tous les prophètes de l'Ancien Testament, a eu à faire face à des cœurs endurcis. Ça vous est arrivé de parler du Seigneur à des gens qui ont le cœur endurci ? Si ça ne vous est pas arrivé, il faut que vous veniez me voir. Hein. Vous ne vivez pas dans le même pays que moi. Je le disais, Dieu nous parle aussi au travers d'hommes et de femmes, mais ces hommes, ces femmes, c'est vous, mes frères et sœurs. qui propageait la bonne nouvelle. Et Ésaïe a dit ceci, dans le chapitre 49, verset 2, « Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Amen. » Trouvez pas ça extraordinaire? Comment Dieu a utilisé Ésaïe? Et même si devant il a eu des cœurs endurcis, il a continué d'apporter la parole, cette parole vivante, cette parole pénétrante. Amen. Rappelez-vous que l'apôtre Paul nous dit que nous devons brandir l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6, 17. Soyez confiants lorsque vous semez la parole, mes frères et sœurs. Parce que l'apôtre Pierre, dans sa première épître, on ne va pas le lire, mais c'est la première épître, les versets 23-25, il nous dit deux choses. Il dit que la parole est incorruptible. C'est une semence incorruptible. Et il dit, il la compare à l'herbe des champs qui disparaît, et il dit, la parole de Dieu, elle est dure éternellement. Ça ne veut pas dire juste que la Bible ou ce que Dieu a dit, ça vivra toute l'éternité, ça on le sait. Ça veut dire que ce que nous semons aussi demeure éternellement. Amen. Et si vous avez parlé du Seigneur à vos familles, eh bien croyez que cette semence, elle est toujours là. Elle est toujours là, même si tout vous montre le contraire. Deuxième point, nous devons réaliser que recevoir sa parole est une chance. Dans l'évangile, dans l'épître pardon, de Jacques, au chapitre 1, versets 21-25, il nous est dit ceci. « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trempant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais en se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, prenons les armures et posons-les ce matin. Posons nos armures. Toi qui viens peut-être depuis longtemps ici, qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur, pose ton armure ce matin. Toi qui peut-être viens pour la première fois, pose ton armure. Tous ces raisonnements que tu as depuis le début du culte, tu dois les poser afin que la parole puisse te toucher maintenant. Amen. Reçois avec douceur sa parole. Sa parole, elle est douce. Elle est comparée à du miel. Amen. Bon, il y en a peut-être qui n'aiment pas le miel, désolé. Dans cette deuxième partie, je veux voir deux points. D'abord, deux raisons pour lesquelles c'est une chance d'avoir la parole. Le premier, c'est une chance parce qu'elle nous révèle l'état de notre cœur. Comment connaîtrions l'état de notre cœur sans elle? Nous l'avons lu dans l'Épître aux Hébreux. Cette épée, elle pénètre au plus profond de nous, capable de séparer ce qui est de l'âme de l'esprit, capable de juger les sentiments et les pensées du cœur. Qui c'est qui arrive à faire ça, là? Vous êtes capable, en regardant Michael, de dire « Je juge les sentiments et les pensées de ton cœur, Michael. » Ça lui ferait peur, hein, si vous disiez ça. Mais non, ne t'inquiète pas, je n'ai pas cette capacité. Quoique le Seigneur peut nous la donner comme un don de discernement à un moment donné. Mais ce n'est pas quelque chose que nous avons en nous constamment. Mais par contre, la parole, au travers de la parole, Dieu veut nous montrer, et Jacques utilise l'image du miroir, il veut nous montrer tel que nous sommes. Et je peux vous dire une chose, vous pouvez aller voir le meilleur psychologue ou psychanalyste, plutôt psychanalyste du monde, il ne pourra jamais aller au fond de votre cœur comme la parole peut le faire. Si, bien sûr, vous n'endurcissez pas votre cœur. Mais si vous ouvrez votre cœur, Dieu va vous montrer et avec beaucoup d'amour tout ce qui ne va pas et tout ce qui doit changer. Des choses dont vous n'êtes même pas conscient. Parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous disons, ah mais moi je ne suis pas comme ça. Alors que tous les autres autour, ils disent, mais si, tu es comme ça. Et en fait, on est sincère, on pense vraiment qu'on n'est pas comme ça. Ça vous est jamais arrivé ce genre de situation ? On pense vraiment qu'on n'est pas comme ça. Mais Dieu va nous montrer qui on est vraiment. Et ce sera salutaire pour nous. Amen. Je bénis Dieu d'avoir mis la lumière sur tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Et de continuer de le faire encore aujourd'hui. Jusqu'à ma mort, il le fera. Et je veux qu'il le fasse. Parce que je sais que ce n'est pas pour me rabaisser, ce n'est pas pour m'accuser, mais c'est pour m'aider à être meilleur. Il nous ouvrira les yeux sur les armures de résistance que nous portons, par exemple. Au verset 13 du passage de l'Épître aux Hébreux, il est dit que rien n'est caché devant lui. Tout est à nu. Vous savez comment ça marche, l'IRM ? C'est incroyable, hein, le progrès que ça a donné. Hein. On arrive à voir à l'intérieur de votre corps des trucs... c'est hallucinant de pouvoir voir ça sans... Avant, il fallait ouvrir hein, pour aller regarder. Eh bien, je peux vous dire que la parole de Dieu, c'est IRM puissance N. Avec une possibilité d'aller jusqu'au plus profond de nous-mêmes pour nous révéler qui nous sommes. Et quand on vous fait un IRM, c'est pour trouver le mal et vous soigner. Ce n'est pas pour vous faire du mal, même si c'est un peu stressant, cette histoire-là. Et de la même manière, l'IRM de la parole de Dieu, il vous fait du bien et il vous attire vers Dieu. Amen. La deuxième chance, c'est que la parole de Dieu a été donnée pour sauver nos âmes. Amen. Pour sauver nos âmes, si je suis là et je peux dire je suis sauvé, c'est parce que j'ai entendu l'évangile, que je l'ai reçu dans mon cœur. Amen. Non pas parce que mes parents, j'ai eu la chance d'avoir des parents chrétiens, mais c'est pas parce que mes parents sont chrétiens que je suis chrétien. J'ai moi-même, à l'adolescence, en fin d'adolescence, reçu le Seigneur dans mon cœur. Amen. Je l'ai reçu comme mon sauveur personnel parce que j'ai entendu sa parole et que cette parole est venue pénétrer mon cœur. Amen. Il y a une grande puissance dans la parole pour sauver. Est-ce que vous offrez la parole de Dieu régulièrement à des personnes ? Est-ce que vous croyez à la parole, qu'elle est suffisante ? On a tous rencontré des gens qui se sont convertis juste tout seuls en lisant la Bible, oui ou non ? Alors pourquoi on n'offre pas plus de Bible autour de nous ? Ah, je vous embête là. Mais c'est vrai. Je vous encourage d'ailleurs, on pourrait, dès que Serge va revenir, on va refaire un appel pour acheter des Bibles, parce qu'on en a de moins en moins. Mais à chaque fois, régulièrement, on fait un appel pour commander des Bibles et on encourage les chrétiens. On commandait par exemple 10, c'est des Bibles bon marché à 4-5 euros. Vous en commandez 10 et vous en laissez 5 à l'église et vous en gardez 5. Les 5 à l'église, elles sont réservées pour des gens qui viennent pour la première fois et à qui on offre une Bible. Les 5 que vous gardez, c'est pour les offrir autour de vous. Ok ? Mais c'était une bonne chose. Ayez-en toujours dans la voiture. Là, je me parle à moi-même, parce que ces derniers temps, depuis que j'ai changé la voiture, j'en ai plus dans la voiture. Ça fait un an, donc il faudrait que je me réveille. Et pour pouvoir en offrir, quand je prends quelqu'un, Blablacar ou... N'importe où je vais, ah, j'ai une Bible dans la voiture, je redescends, je vais la chercher et je la donne. Oui, si on croit que la parole de Dieu est puissante pour sauver, c'est ce qu'on devrait faire, mes frères et sœurs. En préparant ce message, j'ai lu la note d'un commentateur qui m'a interpellé. Il explique les deux tranchants de la manière suivante. Et c'est quelque chose qui se tient, notamment... par rapport à la définition de l'expression à double tranchant, et puis aussi par le fait que l'apôtre Pierre nous dit lui-même que Christ est le rocher par lequel certains sont sauvés et d'autres lesquels, le rocher sur lequel certains viennent buter. et se faire mal. Et en fait, il dit ceci, les deux tranchants, il y a un tranchant pour juger ceux qui seront aptes à entrer au ciel et un tranchant pour juger ceux qui ne le seront pas. L'expression à double tranchant, ça veut dire, attention, tu utilises une arme, mais elle peut se retourner contre toi. C'est ça que ça veut dire en français. C'est à double tranchant, ça veut dire, attention, ça peut te servir, mais ça peut aussi être mauvais pour toi. Dans Jean chapitre 12, versets 47 à 48, Jésus dit ceci, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, écoutez bien, et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Retenez bien ça. Hein. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour le sauver. « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. C'est la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Amen. » Nous sommes jugés, nous serons jugés avec la parole que nous avons aujourd'hui. C'est pas une chance, ça. C'est comme si vous allez à un examen et vous avez déjà la notice pour répondre. C'est exactement pareil. Dieu pourrait nous attendre, rien nous dire, et quand on arrive devant lui au ciel, alors, et là on va dire, mais ouais, mais je savais pas moi. Mais là, personne ne pourra dire qu'il savait pas. Personne. Et d'ailleurs, cette parole, elle est bienfaisante, mais elle peut aussi attirer le jugement sur vous. Quand vous endurcissez votre cœur et que vous n'écoutez pas, ce n'est pas Dieu qui vous juge, mais c'est vous-même qui vous jugez en n'écoutant pas ses commandements et en allant vers les conséquences que vous allez subir en ayant désobéi. Et des fois, j'ai réalisé ça au début de mon ministère, je me disais, mais oh là! Mais il ne faut plus que je parle à personne. Parce que s'il ne m'écoute pas, c'est vrai. Hein, vous vous rendez compte? Et ça m'est arrivé de dire à des gens, attention, fais attention. Parce que là, tu ne t'opposes pas à moi, tu t'opposes à Dieu. Parce qu'il y a des convictions. Des fois, on dit des choses aux gens, on sait que c'est Dieu qui nous dit de les avertir. Et quand ils ne nous écoutent pas, là, on a peur pour eux. Il y a des fois... des entretiens, on donne des conseils de bon sens, etc. Bon, et on se dit, bon, ils écoutent pas. Mais il y a des fois, on sait, c'est le Seigneur qui nous parle et qui nous dit de dire certaines choses. Et dans les prédications, c'est ce qui se passe. C'est Dieu qui vous parle. Et quand vous repartez en disant, ouais, il a dit ça, le pasteur, mais pff, non, non, non. Attention, 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 vous prenez le risque de vous opposer à Dieu. Ce n'est pas des choses qu'on peut prendre à la légère, mes frères et sœurs. Je ne dis pas ça pour que vous m'obéissiez au doigt et à l'œil. Vous me connaissez depuis suffisamment longtemps, ce n'est pas ça mon but. Mais je vous dis attention, attention. Quand Dieu parle, n'endurcissons pas notre cœur. Cette parole... elle nous donne le moyen de connaître la vie éternelle. Ça a été dit à la fin, je sais que son commandement est la vie éternelle. Amen. Dans Jean 6, 68, Simon-Pierre, alors que plusieurs disciples viennent d'abandonner Jésus, parce qu'il a raconté l'histoire qu'on devait manger son corps et boire son sang, et là il y en a dit, voilà, des gens qui se sont endurcis, ils ont l'armure du raisonnement scientifique. Au lieu d'écouter, ils sont partis. Mais Pierre, lui, il a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Puissions-nous être comme Pierre ce matin. Le jugement de Dieu, il nous est donné dès maintenant pour que ne pas le subir après la mort. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? C'est une chance extraordinaire. Nous avons la notice avant l'examen. En ce sens, la parole est une bénédiction. Elle nous montre le chemin pour la vie éternelle. Je conclus. Peut-être certains ont trouvé terrifiant d'entendre toutes ces choses ce matin. Mais nous voulons le dire, nous l'avons dit, Jésus n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Sa parole, c'est une chance et non pas une condamnation. Est-ce que vous comprenez ça ? Sa parole, c'est une chance et non pas une condamnation. Et certaines personnes bienveillantes, là aussi, avec leur esprit rationnel, ils ont envie de dire comment Dieu est. Ils disent, mais Dieu est amour. Donc tout le monde sera sauvé. Dieu est amour, il peut pas permettre que quelqu'un aille en enfer. Et ça, c'est très subtil, hein. Parce qu'on a envie d'entendre ce discours. On a envie de dire oui. Sauf que Dieu est amour. Et il a tout fait pour qu'on n'aille pas en enfer. Il a donné Jésus-Christ, son Fils, afin que nous soyons pardonnés et purifiés de nos péchés. Il a donné sa parole pour que nous suivions son enseignement. Et si nous nous soumettons à cela, si nous acceptons cela, nous n'irons pas en enfer. Et en cela, l'amour de Dieu aura été opérant. Mais si nous endurcissons nos cœurs et que nous allons en enfer, ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. C'est parce que nous n'avons pas écouté sa voix. C'est différent. Est-ce que vous aimez vos enfants ? Quand vous voyez que dans la maison, il y a un poêle brûlant ou le four est brûlant, vous lui dites quoi à votre enfant ? Touche pas ! Sinon, tu vas te brûler. Mais si votre enfant, il le touche et il se brûle, est-ce qu'on peut dire, mais il n'aime pas son enfant, lui? Il n'aime pas son enfant. Mais c'est pas parce que vous n'aimez pas votre enfant qu'il s'est brûlé. Vous l'aviez averti, vous lui avez dit tout ce qu'il fallait, vous l'aviez protégé. Et c'est lui-même qui a pris la décision de toucher, il s'est brûlé. C'est pas parce que vous ne l'aimez pas, c'est parce qu'il ne vous a pas écouté. Comprenez la différence ? Et on mélange tout en disant « Dieu est un Dieu d'amour, alors restons tous chez nous sur le canapé, les doigts de pied en éventail, et puis on attend que ça se passe. Ben, » Dieu, heureusement, nous a destiné à un destin bien plus intéressant que d'être sur le canapé, les doigts de pied en éventail. Amen. Notre part à nous, c'est de demeurer dans la foi. La fin du chapitre 4, je la lis avec vous et on va terminer, on va prier. Ainsi, puisque nous avons, c'est juste après ce que nous avons lu en introduction, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc, écoutez bien, avec assurance, pas avec la trouille, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Notre part, c'est de demeurer dans la foi, mes frères et sœurs. Demeurons dans la foi que le Seigneur est le souverain sacrificateur, qu'il est plein de grâce, qu'il est plein de miséricorde à notre égard et qu'il nous conduira jusqu'au salut. Amen. La foi, nous ne l'avons pas en nous, nous l'avons en ce Dieu Tout-Puissant. Nous l'avons chanté, il est notre force. Il répond à nos besoins spirituels, premièrement, et notamment le fait d'être capable de ne pas nous endurcir devant sa parole. Amen. C'est la première chose qu'il va faire comme œuvre dans votre cœur. Nous prions ensemble. Je vous invite à baisser vos têtes. On va prier. Baissez vos têtes. Fermez les yeux. Et vraiment, je vous invite à un face-à-face avec Dieu. J'invite les enfants à faire la même chose. Les enfants, on va prier ensemble. Vous aussi, vous pouvez prier. Allez, ce n'est pas que les adultes. Tout le monde prie maintenant. Et on va... Les enfants, vous pouvez aussi vous endurcir votre cœur, hein. Quand Dieu vous parle, vous pouvez aussi fermer votre cœur. J'aimerais prier que toute résistance soit brisée au nom de Jésus ce matin. J'aimerais le demander à Dieu maintenant. Seigneur, que toute résistance au nom de Jésus soit brisée ce matin. Amen. Amen. Je crois que tu brises les résistances, que tu fais tomber les murailles ce matin, que tout esprit mauvais chassé de ce lieu au nom de Jésus. Afin que ta parole puisse pénétrer les cœurs au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu veux prendre une décision ce matin de ne plus résister au message du salut pour toi ? Toi qui n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur, est-ce que tu vas encore repartir avec ton cœur endurci ce matin? Ou est-ce que tu vas dire ce matin,